Grâce à la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur nous. Vous avez vu que j'ai la barbe. Je vous l'ai dit, ça fait un mois que je suis couché. Pendant ce mois-ci, j'ai étudié la parole, oui, bien sûr. Alors, je vous disais, je suis resté un mois enfermé et j'ai eu la grâce de pouvoir étudier la parole. Et le Seigneur, il m'a mis à cœur d'étudier un personnage biblique qui a beaucoup de choses à nous enseigner. Et ce matin, on va voir justement cet homme, ce personnage biblique, hein, qu'on pourrait appeler, et c'est le titre du message, un héros hésitant. Un héros hésitant. Hésitant, pardon. C'est l'histoire de cet homme, il se passe en Israël, pendant une période sombre du peuple d'Israël. Et Moïse et Josué, ils sont décédés. Le peuple d'Israël, il est rentré en Canaan. Il y a eu des combats pour conquérir le pays. Pas tout le pays a été fait, mais disons la plupart du pays a été conquis. Mais il y a ça, les peuples, les années passant, ils se sont un peu éloignés du Seigneur. Et ils avaient un peu, comme on dit, ils se demandaient eux-mêmes, est-ce que Dieu nous a abandonnés? Et au moment où je vous parle de ces choses-là, qu'est-ce qu'il se passe? C'est que les nations, ils sont venus et ils ont oppressé le peuple d'Israël. Et dans cette histoire-là, c'est le peuple, c'est la nation des Madians. Madians. Et ce n'est pas la première fois que cela arrive. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu, Israël, une fois qu'il est rentré dans le pays, hein, il a un peu utilisé les coutumes des peuples à côté. Et il y a un verset qu'il est répété plusieurs fois dans ce livre que nous allons voir. C'est ce verset qui dit « Chacun y faisait ce qui lui semblait bon. » Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de dirigeant. Hein? Comme on dit, lorsque le chat n'est pas là, la souris danse. Et c'est exactement ce qu'il faisait ce peuple d'Israël. Ce peuple d'Israël, il s'est un peu éloigné du Seigneur et chaque fois, il y avait les nations qui leur tombaient dessus et automatiquement, le peuple d'Israël, il s'est tourné vers l'Éternel. Car comme l'a dit le frère Jocelyn, qu'est-ce qu'il y a de plus grand que Dieu? Personne. Il n'y a que lui qui peut intervenir. Et chaque fois, Dieu y a appelé des serviteurs, et depuis leur entrée, on appelle ces serviteurs, ces libérateurs, pour libérer Israël, on appelait ça des juges. Et depuis qu'ils sont rentrés dans le pays, il y a eu 5 juges. Hein, je vous donne leur nom, hein. Ensuite on va voir ce qu'ils ont fait. C'est les juges Othniel, Ehu, Shangar, Déborah et Barak. Et Barak, c'est des libérateurs. Mais comme je vous ai dit, il y a cette chose-là qui se passe dans Israël, c'est que lorsque le libérateur, lorsque ces juges, ils meurent, voilà, ils se tournent vers d'autres dieux. Et quelle était la situation en Israël? Comme je vous ai dit, la situation en Israël, c'est que Israël, le peuple d'Israël, il travaillait, mais au moment des moissons, il y avait les autres peuples qui arrivaient et ils prenaient tout ce dont ils avaient récolté. Et cela, il le faisait tomber dans la misère. Et c'est dans cette situation-là que notre héros, hein, hésitant, il se manifeste. Et cet héros, vous l'avez bien compris, c'est Gédéon. Et alors, comme je vous ai dit, je me suis plongé sur ce personnage qu'il a beaucoup de choses à nous dire. Vous savez, ce n'était pas quelqu'un de très courageux, de quelqu'un d'impressionnant, comme les autres juges qu'il y a eu. Par exemple, il y a le juge Othniel, il avait vaincu un roi. Il avait vaincu un roi. Le deuxième, il a assassiné un roi dans son trône. Le troisième, il a tué 600 hommes avec une mâchoire d'âne. Et ensuite, il y a ce qu'on connaît un peu plus, c'est Barak, hein, que c'est un grand général juif, mais qui n'avait pas tellement ce charisme. Et alors, comme il y avait une prophétesse, et il a dit, il y avait la prophétesse Déborah, et il lui a dit, bon, écoute, Déborah, tu viens avec moi. Mais Déborah, la prophétesse, il lui a dit, écoute, si je viens avec toi, la gloire ne te viendra pas. Parce que moi, je suis prophétesse, et le Seigneur, il va intervenir à travers moi par les prières. Donc, comme je vous ai dit, il n'était pas aussi conquérant que les autres. Lisons un peu cette histoire dans Juges chapitre 6. Lisons les versets 1 à 16. Juges 6, 1 à 16. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madian. Déjà, ce premier verset, il nous apprend une chose que c'est très important, que les péchés, ils reçoivent toujours son juste châtiment. Lorsqu'on pêche, si on ne revient pas au Seigneur, il y aura le châtiment de Dieu. Dieu est notre Père et il nous châtie comme il fait, comme nous le faisons avec nos enfants. Il est notre bien, mais il nous châtie pour notre bien. Continuons la lecture. Verset 3. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek. C'est les rois de Madian. Et les fils de l'Orient. Et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans les pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause des Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Mais c'est la seule solution lorsqu'on est en difficulté. Bon, ici, c'est le peuple d'Israël. Il a connu l'Éternel, mais dans notre propre vie, c'est exactement pareil. Lorsqu'on est dans les difficultés, dans la souffrance, la première chose à faire, même avant d'appeler un docteur, c'est de se tourner vers l'Éternel. Car c'est à cela que nous sommes appelés, car c'est lui qui nous guérit, c'est lui qui a tout pouvoir. Et il continue, Israël fut malheureux, verset 7. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Voilà, il n'est pas intervenu tout de suite, mais il a envoyé un prophète. Qui c'est le prophète? C'est celui qui parle de la part de Dieu. C'est Dieu, le Saint-Esprit, il prend possession de lui, il l'envoie, et c'est lui qui apporte la parole de Dieu. Et qu'est-ce que c'est qu'il leur dit? Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte. Je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous. Je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. C'est les choses, il se passe toujours comme ça. Nous oublions constamment les bénédictions de l'Éternel. Toutes les bénédictions, les prophètes, il est venu, il a dit, voilà, l'Éternel a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a pourvu à vos besoins, 40 ans dans le désert, il vous a ramené dans ce pays qui ne vous appartient pas, mais je vous le donne, car la terre appartient à l'Éternel. La terre appartient à l'Éternel. Et il y a un verset dans la Bible qui dit, la terre a été créée pour être habitée. Pas les autres planètes, mais la terre a été créé pour être habité. Et il y a des millions, des milliards qui ont été pensés pour regarder si dans les autres planètes, il y a la vie. Pour pouvoir, parce qu'on est trop nombreux, aller sur Mars. Mais la Bible est claire. La Terre seulement a été créée pour être habitée. Il n'y a pas d'autres habitants dans notre galaxie. Vous savez, on parle des martiens. Vous savez, il y a un seul martien qui est venu ici-bas sur cette terre. Vous savez qui c'est, ce martien? C'est Jésus. Lui seul, il est venu. Et il n'y en a pas d'autre. Et il est venu pour nous faire du bien. Voilà pourquoi je dis, on oublie facilement ce qui nous est, les bénédictions de Dieu. Lorsque on est bien, même on oublie Dieu. Mais lorsqu'on tombe dans les besoins, vers qui on se tourne premièrement? Ben, vers le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu il a envoyé ce prophète, pour leur rappeler ces choses-là. Et au verset 11, voilà, il a envoyé les prophètes et ensuite il se met en action. Il a amené l'avertissement et ensuite, tout de suite, l'action. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térubin d'Ophra. Appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et il dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Voilà la première chose qu'on peut voir de cet homme, Gédéon. Je l'ai appelé un héros hésitant. Pourquoi? Parce que c'était pas, comme je vous ai dit, quelqu'un de courageux. D'ailleurs, lorsque l'ange lui apparut, il était en train de mettre de côté les mangers, les cacher, il était en train de préparer les provisions, mais il était caché. Et c'est là que l'ange de l'Éternel, si vous avez bien remarqué au verset 11, il dit l'ange de l'Éternel. Il dit que c'est l'ange de l'Éternel, tandis que au verset 16, il dit l'Éternel lui dit. Qui c'est donc l'ange de l'Éternel? Mais c'est Dieu, c'est Jésus avant son incarnation, c'est le Fils de Dieu qui se fait voir. C'est la même personne. Il va les trouver. Et qu'est-ce que c'est qu'il lui dit? Et il a dit. Vaillant héros, je vous lis, l'ange de l'Éternel est paru et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'était quelqu'un de peureux. Je suis sûr que lorsqu'il a dit, vaillant héros, je suis sûr qu'il s'est tourné. Il a dit, mais c'est avec moi qu'il parle? Il m'appelle vaillant héros. Mais je suis le plus petit d'une famille, de la plus petite famille dans les pays d'Israël. Comment suis-je un vaillant héros? Tu dois te tromper de personne. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas tellement prêt pour servir le Seigneur, pour être utilisé par le Seigneur. Il dit, je suis le plus petit. Vous connaissez l'histoire de Moïse, c'est exactement pareil. Il l'appelle sous le Sinaï et lui a dit, va en Égypte et libère mon peuple. Qui, moi? Je ne sais pas parler. Je n'ai rien dans ma main. C'est exactement la même chose ici. Et vous savez pourquoi Gédéon? Je suppose que vous connaissez ce dicton qui dit « Les arbres qui cachent la forêt. » Les arbres qui cachent la forêt. Quand l'ange de l'Éternel est venu à Gédéon, oui, c'était le début de quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que Dieu, il a intervenu. Pourquoi? Parce que le peuple, il a appelé au secours. Si on n'appelle pas au secours, Dieu n'intervient pas dans votre vie. Dans notre vie. Car il désire que nous soyons dépendants de lui. Jésus nous l'a dit, soyez comme de petits enfants. Un petit enfant, il dépend de son père, de sa mère. J'ai faim. Même s'il n'y a rien à la maison, papa et maman, ils feront tout pour que l'enfant puisse manger. Et ici, c'est exactement pareil. Il se tourne vers l'Éternel. Hein? C'était le début de quelque chose. C'est Dieu qui intervenait pour envoyer quelqu'un, un libérateur, un sauveur pour ce peuple. Car Dieu, il n'abandonne pas les promesses qu'il fait. Et justement, il a été vers Gédéon pour lui dire, c'est toi que j'ai choisi. Et il l'appelle vaillant héros. Mais Gédéon avait des difficultés à voir ça. Il était préoccupé par beaucoup de choses. Premièrement, il était préoccupé par lui-même, par sa famille, par son peuple et par les circonstances. C'est-à-dire qu'il y avait des arbres qui cachaient la forêt, qu'il cachait les choses qu'il aurait dû voir, mais il y avait quelqu'un devant lui qui l'empêchait de voir ça. C'est un peu comme lorsque Jésus il a guéri et l'aveugle, vous vous en souvenez là, il l'a appelé, hein, il a craché dans la terre, il a fait de la boue et il lui a mis dans les yeux. Alors il a dit ouvre les yeux, il a dit qu'est-ce que tu vois? Et il voyait trouble, il a dit je vois comme des arbres qui bougent. Pourquoi? Ça lui empêchait de voir la volonté de Dieu. Et Gédéon c'est exactement la même chose. Et vous savez, il y a des fois des arbres qui cachent notre vision du plan de Dieu. Je crois que Daniel, la semaine dernière, vous a parlé du plan de Dieu. Et il y a des choses, des fois, qui nous le cachent. Et pourtant, le plan de Dieu, il est là, dans sa parole. Et dans Josué, hein, il y avait trois choses qui lui empêchaient de voir le plan de Dieu, de croire à ce que Dieu, il disait, vaillant héros. Première chose, c'est les circonstances. Les circonstances, ils étaient un blocage pour Gédéon. Pourquoi? Parce que il voyait que chaque fois qu'il y avait un peu de nourriture, les nations, ils venaient et ils prenaient tout, hein. Et ces circonstances-là, ils l'ont appauvri en tant que courage. Il disait, je suis seul, on est seul, Dieu nous a abandonnés. D'ailleurs, on vient de le lire lorsqu'il dit, l'Éternel est avec toi. Il a dit, mais si l'Éternel est avec moi, pourquoi on est dans cette situation-là? Ça vous arrive pas quand vous êtes dans les besoins, dans les difficultés, dans la souffrance, hein? Et de dire, mais pourquoi, Seigneur, tu me fais ça? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi moi? On croit que parce qu'on va au culte, parce qu'on prie, parce qu'on va aux études, que Dieu, il est obligé. Dieu, il ne met pas à part ses enfants de toutes ses souffrances. Mais il y a une chose que Dieu fait. C'est que Dieu, il est avec nous dans la souffrance. Il ne nous enlève pas la souffrance ou la peine, mais il est avec nous. Je suis avec toi. Jésus, il a dit, je m'en vais, mais tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Allez partout. Et c'est ça que Gédéon, il y avait les circonstances dans lesquelles il était, qui l'empêchaient de voir cette manifestation de Dieu, que Dieu, il appelle vaillante héros. Deuxièmement, il y avait un autre arbre qui empêchait à Josué de voir, c'est les péchés d'Israël, les péchés de son peuple, le peuple qui s'était éloigné de Dieu, le peuple qui avait, oui, abandonné Dieu. Et alors, voilà pourquoi le prophète, il est venu, sûrement qu'il a entendu les prophètes, ou il connaissait déjà ces choses-là. Mais avec les prophètes, il s'est souvenu du temps passé, pendant que Dieu, il a manifesté sa grâce envers le peuple d'Israël. Égypte, Exode, toutes ces choses-là. Gédéon, il voyait les passés glorieux du peuple, mais il ne regardait pas tout ce que Dieu il avait fait et ce qu'il était prêt à faire, mais il regardait les passés. Il dit, voilà, les passés, c'est les passés. Dieu, il est intervenu, maintenant c'est fini. Mais il nous dit quoi, Jérémie? Les bénédictions de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dieu est toujours le même, aujourd'hui, demain et hier. Voilà pourquoi, lui, il ne regardait que les passés. Je vous dis une chose, nous c'est pareil, des fois on regarde notre passé, lorsque nous nous sommes convertis, lorsque nous nous sommes fait baptiser, lorsque nous avions le feu de l'amour de Dieu. Mais petit à petit, hein, le péché est entré dans notre cœur, dans nos vies, et petit à petit nous nous sommes éloignés. Et le Seigneur, il nous le dit, hein, il a dit, je crois que c'est à l'église d'Éphèse, il a dit, tu bouges beaucoup, hein, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ils étaient pas comme auparavant. Pour chaque chose, on lut Dieu. Vous vous en souvenez lorsque vous avez ouvert votre cœur au Seigneur Jésus? On ne pourrait pas tenir en place. On parlait à tout le monde. Mais si cet amour, il diminue, on le fait de moins en moins. Voilà pourquoi il y a de moins en moins de témoignages, de l'évangélisation. Pourquoi il y a moins en moins de travail dans l'Église. Et ça arrive toujours comme ça. Et Gédéon, il regardait le passé, mais il ne voyait pas l'avenir. Voilà pourquoi il faut que chacun de nous, il se dise, il ne faut pas laisser notre passé et se dire, c'est le passé. Non, il faut regarder devant nous. Le plan de Dieu, on l'a vu mercredi dans l'étude du livre des Éphésiens, le plan de Dieu, c'est qu'il nous a élus et il nous a prédestinés à être semblables à Jésus-Christ. Je voulais toujours dire, je suis pas beau comme mec, hein, mais je sais que je vais être semblable à Jésus-Christ. Et à moi-même, je me dis, tu es beau, Aldo. Ce que les autres, ils pensent, je m'en balance. Ce que je sais, c'est que Dieu, il m'a élu, il m'a choisi et il m'a prédestiné à être semblable à Jésus-Christ. Donc, nous devons faire tout pour que nous puissions vivre une vie semblable à Jésus-Christ, ici-bas. Si vous voulez, ici-bas, c'est la préparation à notre vie que nous aurons là-haut. Hein. Si nous ne vivons pas comme Jésus l'a vécu ici, c'est fini. Hein. Voilà pourquoi il dit, les péchés du peuple, c'était partie du problème dans la vie de Gédéon. Mais Dieu, le peuple d'Israël disait, Dieu nous a abandonnés il y a toujours. Mais Dieu, il n'abandonne pas. Une mère, il peut abandonner son enfant, mais Dieu, non. Dieu, non. Voilà pourquoi Dieu, il est intervenu, malgré les péchés. du peuple. Malgré que les peuples se soient éloignés, Dieu, il est intervenu. Et il a choisi Gédéon pour être les libérateurs. Mais Gédéon, hein, il ne se voyait pas du tout comme libérateur. Je suis le plus petit. Je suis rien. Mais c'est ce qui compte, c'est de nous voir comme Dieu nous voit. Ne disons jamais, je ne vaux rien. Je suis bon à rien. Parce que pour toi, pour moi, Jésus-Christ a donné sa vie. Et il nous a dit dans sa parole que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Et la troisième arbre qui cachait la forêt à Gédéon, c'est son propre péché. Ce matin, Jean-Pierre, il nous l'a rappelé qu'on est tous des pécheurs. Il n'y a personne qui n'est pas pécheur. Et Gédéon, c'est exactement, et encore, parce que lui aussi, comme tous les autres peuples, il s'était tourné vers les dieux étrangers, des nations. Pourquoi? Parce qu'il voyait que Dieu n'intervenait pas. Donc, il fallait qu'il se détourne de cela et qu'il fasse encore confiance au Seigneur. Car le Seigneur, il n'abandonne pas. Voilà pourquoi, comme l'apparition de l'ange de l'Éternel, c'est le début de l'appel de Gédéon. Il vient pour lui dire, tu as été appelé pour délivrer le peuple des Madians. Et lui, comme j'ai dit, il ne se voyait pas comme ça. Et je crois que parfois nous sommes un peu comme Gédéon. Les arbres, ils nous cachent la forêt. Hein? Pourquoi? Parce que c'est quelque chose, lorsque Dieu nous appelle, il ne faut pas regarder aux difficultés devant nous, aux souffrances ou autre chose. Lorsque Dieu nous appelle, il faut dire, mais voici Seigneur. Car Dieu, lorsqu'il appelle, il donne les moyens de faire le travail pour lequel il nous appelle. Dieu, il pourvoit en toutes choses. Voilà pourquoi, lorsque l'ange de l'Éternel, il est apparu à Gédéon, pour lui dire, c'est toi le libérateur, il lui a dit, vaillant héros. Ça veut dire quoi? Que Dieu, il nous voit comme des vaillants héros. Oui, oui. Ça, c'est aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons toute la puissance de Dieu. Nous avons auprès de nous cette puissance, le Saint-Esprit, qui nous permet de faire. Jésus, il a dit, vous ferez des plus grandes choses que moi j'ai fait. Gédéon, il ne se voyait pas, mais aux yeux de Dieu, c'était un vaillant héros. Ne regardons pas, encore une fois, notre passé. Regardons notre avenir. Car notre avenir, c'est quoi? Vous savez qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes des héritiers de Dieu, des co-héritiers de Jésus-Christ. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu, des enfants de Dieu. Nous sommes des rois, nous sommes des sacrificateurs. Donc, ne nous regardons pas de dire, mais j'ai rien, je ne connais rien, je ne fais rien. Peut-être que je suis rien, mais avec ce grand Dieu que nous avons, nous pouvons faire des exploits. Il nous est dit en verset dans la Bible. Donc, à chacun de nous de prendre conscience de ce que nous sommes. Pas de nous regarder à nous-mêmes, mais de regarder comment Dieu il nous voit. Comment est-ce que Dieu il voit chacun de nous en tant que ses enfants, en tant que des gens qui doivent régner. Je vous le dis toujours, si vous lisez la Bible, si vous lisez Apocalypse, il nous a dit, Jésus il nous a dit, nous régnerons avec lui. Peut-être que ici-bas, sur cette terre, on n'a rien. Pas d'argent, pas de compte en banque, on arrive à difficulté au 31 du mois. Mais sachons qu'ici-bas, c'est pas une vie. Nous sommes des étrangers ici-bas. Si nous continuons à vivre ici, c'est parce que la grâce de Dieu, elle est à nous. Mais ce qui nous est réservé, c'est le ciel, c'est le paradis. Une vie éternelle avec le Seigneur. Hein? Donc, c'est une exhortation, il dit, il faut être honnête envers chacun de nous. Et ne pas être des myopes. C'est-à-dire qu'il faut se regarder, pas comme les gens, ils nous pointent du doigt, mais comme Dieu, ils nous voient. Et ça, c'est un encouragement. Et c'est ça que Gédéon, il n'avait pas saisi. Il s'est regardé, lui, et ce qui s'est passé autour de lui, et il se disait, non, je peux rien. Mais Dieu, il a dit, tu es un vaillant terreau. Et c'est toi qui vas délivrer le peuple. C'est toi. Hein? Quand l'ange de l'Éternel est venu, il ne disait pas, l'Éternel sera peut-être avec toi. Non, il a dit, l'Éternel est avec toi. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est ce qu'il a dit à Gédéon. Gédéon, Dieu, il a regardé avec ses yeux. Et il a vu en lui quelqu'un qui l'aurait délivré son peuple. Pourquoi? Parce que Dieu serait avec lui. Parce que si Dieu n'est pas avec nous, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Voilà pourquoi Gédéon, à ce moment-là, il ne voyait pas grand-chose. Parce qu'il avait beaucoup de choses qui le cachaient. Hein? D'abord, les circonstances. Ensuite, les péchés du peuple et ses propres péchés. Ce qui compte aujourd'hui, c'est notre marche avec le Seigneur. Ne regardons pas, encore une fois, notre passé, mais regardons maintenant. Nous sommes en marche avec le Seigneur, dans une marche quotidienne, et dirigée par lui. Le Seigneur est avec... C'est une promesse de Jésus, hein. Je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Et vous savez, nous ne sommes pas seulement nous sommes des pécheurs, oui, mais il nous est dit que si nous demandons pardon à Dieu, il nous pardonne. Et en nous pardonnant Dieu, il nous fait ses enfants. Et il n'y a pas que ça comme bénédiction qu'il nous donne. Dans Éphésiens 5, il nous est dit que nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes plus des enfants de colère que nous étions autrefois. Car grâce et par Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Comment est-ce qu'on devient enfant de Dieu? La Bible est claire, mais il y a des gens qui ne savent pas lire. Dans Jean, comment on devient enfant de Dieu? À tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu Jésus-Christ dans leur cœur, en se repentant de leurs péchés et en changeant de vie, en le recevant dans leur cœur, il a donné les droits et les pouvoirs de devenir enfant de Dieu. Si on ne fait pas cette marche-là, on n'est pas enfant de Dieu. C'est pas en baptisant les enfants qu'on devient enfant de Dieu. Comme quelques-uns ils font, et ils prêchent, et ils continuent à le faire. Ça, c'est des gens qui ne savent pas lire la Bible, et qui sont même anti-bibliques, parce qu'ils enseignent des choses que Dieu, il n'a pas enseignées. Dans Éphésiens 1, 11, il nous est dit que nous sommes héritiers du roi. Nous sommes héritiers du roi. Dans Éphésiens 15, dans Jean 15, 15, il nous est dit que nous sommes amis de Dieu. Nous sommes amis de Dieu. Nous connaissons Dieu. Et qui c'est qu'un ami? Un ami, c'est quelqu'un qu'on connaît personnellement. Et nous sommes amis de Dieu. Comment nous connaissons personnellement Dieu? À travers Jésus-Christ. Car Jésus, il est venu pour nous montrer le Père. Montre-nous le Père. Et il lui a dit, mais ça fait 3 ans et demi que je suis avec toi. Et encore, tu ne m'as pas connu. Et encore, tu me dis, montre-nous le Père. Regarde-moi. Et tu vois le Père. Et il nous est dit aussi dans Pierre 2:9, il nous est dit que nous sommes saints. Vous êtes saints. Nous sommes saints. On n'est pas saints une fois mort. Et encore, ce n'est pas des hommes qui disent « Marlène est sainte ». Non. Je suis sûr qu'elle refuse même. Mais qui c'est qui nous dit que nous sommes saints? C'est Dieu. Et lorsque Dieu parle, c'est la vérité. C'est la vérité. Et dans Romains 8, 37, quelque chose que nous devons bien assimiler dans notre vie chrétienne, il nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Pas seulement vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Toutes ces bénédictions-là, nous les avons à Jésus-Christ. Oui, nous sommes des vaillants héros. Vous êtes des vaillants héros. Regardons-nous avec les yeux de Dieu. Et vivons. Et bien, quelque chose qu'il faut se demander, c'est est-ce que nous vivons ces vérités? Est-ce que nous vivons ces vérités? Oh, nous les lisons simplement de la Bible. Voilà, oui, Dieu, il dit ça, mais lorsqu'il y a une difficulté, je me retire ou je n'avance pas. Nous sommes des vaillants héros. C'est à nous de nous voir comme Dieu, il nous voit. Un peu comme Jésus, lorsqu'il rentrait à Jérusalem pour être crucifié, il s'est arrêté sur la montagne en regardant Jérusalem. Et il a dit, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu vous réunir comme une poule réunit ses enfants, mais vous ne l'avez pas voulu. Dieu il nous dit que son désir, c'est que tous y soient sauvés. Pourquoi il y aura des gens qui vont en enfer? Parce qu'ils n'ont pas voulu être sauvés. Mais Dieu veut sauver. Mais il y a le chemin que Dieu a tracé. Si on prend un autre chemin, on n'arrivera jamais au salut. Il nous a dit en verset que Dieu, il a créé un chemin, mais l'homme, il essaie de prendre des détours. Il essaie de couper ou de changer le sentier, le chemin que Dieu il a fait. Non, si on veut être sauvé, il y a un seul chemin et c'est Jésus-Christ. Regardons-nous avec les yeux que Dieu voit. Pas selon nos yeux. C'est vrai que si je me regarde moi-même, je me dis, qu'est-ce que tu es, Aldo? Tu es rien. Mais lorsque je regarde en tant que chrétien, je dis, mais avec moi, il y a le Seigneur. Avec moi, il y a le Saint-Esprit. Alors, et à lui, il a dit, va avec cette force que tu as. Quelle est la force que nous avons? Mais le Saint-Esprit. Alors, nous devons craindre rien, ni timidité, ni manque de connaissances. Nous devons seulement dire ce que le Seigneur a fait pour nous. Hein, vous en souvenez, lorsqu'il a guéri, et il était tellement content, il a dit, Seigneur, je veux rester avec toi. Il a dit, non, rentre chez toi. Et tu dis à ta famille ce que le Seigneur il a fait pour toi. C'est ça, les témoignages. C'est ça, évangéliser. Dire ce qui nous est arrivé. Que j'étais pécheur, que je me suis repenti, j'ai changé ma vie, le Seigneur est rentré dans mon cœur, il a placé à moi le Saint-Esprit, et grâce à cela, je peux vivre une vie nouvelle. Car si le Saint-Esprit n'est pas en nous, on ne peut pas vivre une vie nouvelle. Parce que nous n'avons pas cette force. Va avec cette force que tu as. Et autre chose qui réconfortait Gédéon, et autre chose qui doit nous réconforter aussi, il y avait deux dans ces passages, il y a deux choses qui nous donnent de l'espoir et du réconfort, pas seulement à Gédéon, mais à nous aussi. La première chose, c'est les pouvoirs de Dieu. Les pouvoirs de Dieu. Quelqu'un a Dieu a dit, lorsque Dieu il appelle, il équipe. Il nous est dit que nous sommes dans un combat. Et il fait quoi, Dieu? Dans l'épître aux Éphésiens, il nous donne l'armure. Si Dieu nous donne cette armure, c'est que nous devons la mettre. Pourquoi? Parce que Dieu, il nous équipe. Il nous a sauvés. Il sait contre qui nous devons combattre. Voilà pourquoi il nous a donné son armure. Et je peux vous dire que autour de ce peuple d'Israël, autour de Gédéon, il y avait ces nations qui arrivaient. Mais ce qui doit réconforter Gédéon et nous aussi, lorsque nous sommes dans la difficulté, c'est ce que le Seigneur il dit à Gédéon et à nous. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie combattre? Je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu omnipotent. Je vois les choses et je sais que je vais intervenir. Et tous ceux qui sont devant toi, ils ne comptent rien. C'est moi qui t'envoie. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Derrière cette exhortation du Seigneur, il y a quoi? Ben, il y a toute l'autorité de Dieu. Toute l'autorité de Dieu. Nous avons l'autorité, chacun de nous qui a Jésus-Christ dans son cœur. Jésus, il est dans notre cœur. Comme j'ai dit tout à l'heure, Jésus, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Et à nous, nous avons tout pouvoir. L'autorité de Dieu, elle est avec nous. L'autorité des disciples, des Gédéon, il dépendait que de ça. Hein. Que Dieu, il était avec lui et que c'est Dieu qui l'envoyait. Allez partout dans le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Vous savez que les premiers disciples, en 30 ans, presque tout l'Empire romain, il a entendu l'Évangile. Pourquoi? Parce qu'il croyait dans cette autorité de Dieu. Il savait qui c'est qui les a envoyés. Et depuis, vous savez, si ces gens, ces disciples de Jésus au commencement, ils étaient vivants au jour d'aujourd'hui, tout le monde, il aurait entendu parler du Seigneur. Prenez quelqu'un comme Paul. Aujourd'hui, dans le métro ou dans le train, croyez-vous que dans le métro, tout le monde est silencieux? Croyez-vous qu'un homme, un chrétien comme Paul, il se serait tu dans le métro? C'est le Seigneur qui l'a envoyé pour prêcher. Et nous, c'est pareil. Nous devons témoigner. Paul, il dit à Timothée, cueille chaque occasion pour annoncer l'Évangile, pour témoigner. Chaque occasion. Je vous ai raconté cette petite histoire dans un mariage. Vous savez, dans les mariages, ce qui se passe. À un certain moment, tout le monde y raconte des blagues. Hein, et il rigole. Il y en avait un qui n'en connaissait pas. Pas qu'il n'en connaissait pas, il n'en connaissait une seule. Et alors, à un certain moment, il donne un coup sur la table et dit, un coup de fusil. Ah, à propos des coups de fusil, je vous raconte une histoire. Cueillez toute occasion d'annoncer la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans nos vies. Et la deuxième chose qui doit nous remplir d'espoir, comme à Gédéon, c'est la pas seulement le pouvoir de Dieu, mais la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence. Dieu est avec nous. Dieu, il est à nous. J'ai lu une petite histoire que vous connaissez, hein, mais je vais vous la lire. En la lisant, il la raconte mieux que moi. Hein. C'est une histoire que vous racontez par rapport à la présence de Dieu. Et c'est là, ça m'est arrivé... Hein, quand je suis parti avec ma femme à Toulon quelque temps, juste en face de la mer, on allait se visiter, on allait se balader sur les sables. Et cette histoire, il commence comme ça. Il dit un poème, il a dit « Une nuit, un homme eut un rêve ». Il rêva qu'il marchait le long de la plage avec le Seigneur. À travers les ciels apparurent des scènes de sa vie. Pour chaque scène, il remarquait deux paires d'empreintes, des pas dans le sable. L'une lui appartenant et l'autre étant celle du Seigneur. Il remarqua qu'à plusieurs reprises, le long de sa vie, il n'y avait qu'une paire de traces de pas. Il s'aperçut également que cela arrivait dans les moments les plus bas et les plus tristes de sa vie. Cela le préoccupa beaucoup. Il interrogea le Seigneur à ses propos. « Seigneur, tu as dit qu'une fois que j'avais décidé de te suivre, tu marcherais avec moi tout le long du chemin. Mais j'ai remarqué que durant les moments les plus troublés de ma vie, il n'y avait qu'une seule paire de traces. » Je ne comprends pas pourquoi, quand j'avais le plus besoin de toi, tu m'as abandonné. On le dit souvent ça, n'est-ce pas? Tu m'as abandonné. Le Seigneur répondit, mon précieux enfant, je t'aime, je ne t'abandonnerai jamais. Durant les périodes d'épreuves et de souffrances, lorsque tu ne voyais qu'une seule trace de pas dans les sables, c'était à ce moment-là que je t'ai porté. C'est là le Seigneur nous portait. Dans le verset 16, après que Gédéon ait fini avec toutes ses objections, l'ange lui dit, « Je serai avec toi. » Et si le Seigneur avec lui et avec nous, il arrive quoi à Gédéon? « Et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon n'a pas eu de bons résultats tout de suite. Mais nous savons que, à la fin, lorsqu'il a été combattre Madian, il est sorti vainqueur. Pourquoi? Parce qu'il y avait la présence du Seigneur dans son cœur. Et il y a le Seigneur dans notre propre cœur. Voilà pourquoi c'est très important d'avoir ces deux encouragements qui ont été donnés à Gédéon, le pouvoir de Dieu et la présence de Dieu. Dieu, il a promis sa présence dans notre vie. Est-ce que Dieu change? Non, Dieu ne change pas. Cette promesse, elle est toujours valable. Voilà pourquoi, pour conclure, il y a un défi pour chacun de nous, un défi qu'on voit ici parmi avec Gédéon, hein, le défi d'être un peuple qui ne soit pas empêché par les circonstances, qui ne soit pas empêché par le péché de ceux qui sont autour de nous ou par nos propres péchés, mais que nous puissions regarder le monde avec les yeux de Dieu, comme Dieu il nous voit. Et nous sommes appelés à nous regarder nous-mêmes. Vaillant héros, il appelait comme ça Dieu. Et lui disait, mais je suis rien. Non, pour Dieu, nous sommes des héros. Donc, à chacun de nous d'obéir à ce que Dieu nous dit. Car Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, il ne ment pas. Il dit la vérité. Hein? Ce que l'ange de l'Éternel, il a dit à Gédéon, est valable pour chacun de nous. Oui, nous sommes des vaillants héros. Alors, ne nous arrêtons pas. Allons vers où le Seigneur nous envoie. Car si le Seigneur nous envoie, il nous équipe et il nous dirige par son esprit. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.